8h53, Émile Procloutier de retour ce matin. Bonjour,
bonjour
Émile.
Bonjour, bonjour.
Bon, on parlait cette semaine de ces bâtiments solaires passifs.
Ouais.
Alors là, tu nous as expliqué dans le résidentiel, voici ce que ça veut dire,
ouais,
et comment ça fonctionne. La question, évidemment, qu'on avait tous, c'était est-ce que ça fonctionne pour le commercial, est-ce que ça fonctionne pour l'industriel?
La réponse est oui, d'abord. Ailleurs, en Allemagne, il y en a des bâtiments comme ça. Et là, tranquillement, ils ont développé des techniques pour faire des écoles. Ils sont assez à l'avant-garde là-bas. Et tranquillement, ici, il y a des bâtiments de ce genre-là qui ont été, tu sais, au Canada, Vancouver, on y en a vu en Alberta aussi, mais c'est comme, c'est marginal, je dirais. Et j'ai posé la question, j'en ai cherché ici, et il y en a. Ce que beaucoup de gens m'ont dit, par contre, c'est que en général, dans le bâtiment public, il y a une tendance à miser sur l'efficacité énergétique de façon beaucoup plus élevée que ce que les normes exigent. Donc, il y a une tendance de fond qui va vers ça.
Okay.
Par contre, vers l'innovation, qui ressemblerait aux maisons dont on a parlé mercredi, c'est beaucoup plus rare. Il y en a peu, mais il y en a. Je vous parle de la bibliothèque de Varennes.
De Varennes?
Ouais. Alors, qui est un exemple qui était, je sais, c'était un immeuble pionnier au Québec. On remonte le 10 ans, en 2009, lorsque le maire nouvellement élu, Martin Danfous, il arrive en fonction. Et bon, il s'apprêtait à rénover, là, la bibliothèque, puis l'agrandir. C'est un projet conventionnel. Il fait la rencontre d'un gars qui travaille pour un organisme de recherche fédéral, puis en discutant, ils conviennent ensemble de « Ah non, OK, cette bibliothèque-là, on va la rebâtir à neuf. On va faire un projet vraiment innovateur sur le plan de l'efficacité énergétique. Ça va presque consommer rien. » Alors, mais pour ça, il tombe en mode innovation. Il dit « OK, ça va coûter un peu plus cher. On prend un risque. » Pour lui, le maire, c'est un risque politique, mais il dit « J'y vais quand même. » Alors, plutôt que de procéder de la manière traditionnelle, c'est-à-dire, d'abord, d'engager des architectes qui font leur travail, puis qui passent la main à des ingénieurs, puis qui passent la main à des contracteurs, ils ont opté pour une conception intégrée, c'est-à-dire que tout ce monde-là, au jour 1, à la première réunion, se retrouve autour de la table. Fait qu'il y avait 25 personnes. Donc, les ingénieurs sont là, les gens qui vont construire le bâtiment sont là. Il y avait même des chercheurs de Concordia qui étaient là à se creuser les méninges. Comment qu'on va faire pour relever le défi qu'on se donne? Évidemment, c'est 25 cerveaux qui pensent pas de la même manière et qui ont pas les mêmes priorités. Là.
Mm-hmm.
Forcément, les chercheurs vont plus dans le sens de l'innovation. Les architectes pensent au design, bien sûr. Après ça, les ingénieurs veulent... Eux sont peut-être plus prudents parce qu'ils vont se porter garant du bâtiment réel qui va exister. Et ils optent donc pour la solution solaire passive. Est-ce que vous vous rappelez, en gros,
rappelle-nous ça.
D'accord. Fait que le bâtiment est principalement chauffé sans générer d'énergie, c'est-à-dire qu'il reçoit les rayons du soleil. On oriente le bâtiment vers le plein sud. La façade sud est pleinement fenestrée. Et les rayons du soleil rentrent toute la journée. Ça
réchauffe. Il n'y a pas de panneaux de solaire.
Dans le principe du solaire passif, ça n'inclut pas des panneaux solaires. On n'a pas besoin de ça. C'est passif. C'est-à-dire que le bâtiment travaille pas, lui. Il fait juste recevoir. Il boit des rayons. Les rayons tapent sur le plancher qui est foncé puis qui agit comme masse thermique. Et ça il emmagasine de la chaleur puis il restitue ça pendant la journée et même pendant la soirée, dans tout l'immeuble. Et tout le reste de l'enveloppe est très, très bien isolé afin que le froid de l'extérieur ne rentre pas. Ce qui fait que des fois, l'hiver, dans les maisons solaires passives, dedans, il fait 20 degrés, mais le chauffage est fermé, même s'il fait moins 20 dehors. Dans le cas de cette bibliothèque-là, c'est l'option de base de construction qu'ils ont adoptée, l'orientation et tout. Elle est un petit peu enfoncée dans le sol parce que le sol agit comme isolant également. Mais là, en faisant ça, ils ont réussi à économiser 80% de l'énergie qu'un bâtiment semblable à côté produirait. C'est quand même c'est un gros truc.
Ben,
c'est 2000 mètres carrés. Mais le 20% qui reste, parce que ça prend de l'électricité, puis il faut qu'il y ait des ordinateurs, puis des lumières, puis tout ça. Là, le défi qui se donne, puis qui est là la petite coche de plus, ils se sont dit, là, on va faire un bâtiment qui s'appelle net zéro, c'est-à-dire que l'énergie qu'on a besoin, on va la produire. Alors là, ils ont décidé d'ajouter des panneaux solaires sur le toit. Il y en a 500. Pour le solaire passif, c'est pas nécessaire, mais dans le cas du net zéro, oui, pour produire de l'énergie. Alors, il y a 500 panneaux solaires sur le toit de la librairie. De la bibliothèque. Et ça produit de l'énergie à l'année. Quand l'été, il n'y a pas besoin de beaucoup de... Non, il n'y a pas de chauffage qui part, ni rien. Parce qu'il faut le dire, il y a un chauffage d'appoint dans ces bâtiments-là quand même. L'été, les surplus sont renvoyés dans le réseau d'Hydro-Québec pour approvisionner d'autres maisons autour. Puis l'hiver, s'il y a des pointes de chauffage, puis tout à coup, bien, la demande en énergie du bâtiment monte, bien là, on s'approvisionne à même Hydro-Québec. Et à la fin, ce que ça veut dire, c'est qu'à la fin de l'année, le bâtiment a produit autant d'énergie qu'il en a consommé. C'est pour ça qu'on appelle ça un bâtiment net zéro. c'est un investissement quand même.
Est-ce que politiquement, ça a été bien accueilli?
Ça a été très bien accueilli. Ça a ouvert en 2015 et ça a été bien reçu. C'était un risque, mais ça a été bien reçu par les gens. Il y a dans le hall du bâtiment un téléviseur qui indique en temps réel la consommation d'énergie du bâtiment. Puis ça, c'est très rare comme pratique ici, mais ça agit comme outil éducatif. À Londres, au centre-ville, il paraît qu'il y a bien des bâtiments où tu rentres puis tu vois, tu sais ce que le bâtiment consomme. Moi, ici, si je rentre à la place de mon aventure, je ne sais pas qu'est-ce que le bâtiment consomme en énergie. Donc, on n'est pas vraiment sensibilisé à ça ici. Mais dans ce type de bâtiment-là, ça agit comme vitrine technologique pour que les gens s'en rendent compte. Donc, ça a été visité par d'autres municipalités. Il y a des projets de cet ordre-là qui existent au Québec ailleurs. Il y a une école à Saint-Eustache, qui s'appelle l'école Curé-Paquin, qui ne sera pas 100% solaire passif, mais qui va utiliser des stratégies du solaire passif pour se chauffer et qui va avoir un petit téléviseur comme ça à l'intérieur. Et le bâtiment va agir comme outil éducatif pour les élèves qui vont y entrer. C'est en construction en ce moment, ça va être en fonction à l'automne 2019. Évidemment, la raison pour laquelle, ce qu'on me dit beaucoup, moi, j'ai demandé, mais pourquoi on n'en a pas plus des projets comme ça ici, c'est que ça demande un gros investissement de départ. La conception intégrée dont je vous ai parlé au début, les longues réunions à plusieurs concepteurs ensemble, ça prend plus de temps, c'est plus de coûts pour démarrer le projet. Et t'amortis ton investissement plus long, ben c'est sur du plus long terme parce que comme l'énergie est pas très chère ici, ben on se dit, écoute, ça vaut-tu vraiment la peine là, de sauver? Dans le cas de la bibliothèque de Varennes, il faut quand même le dire, là, lui, il sauve entre 80 000 et 100 000 piastres d'électricité par année. Ça fait 3-4 ans qu'il est ouvert, donc c'est 300-400 000 piastres là, de fonds publics qui sont réinvestis, qui sont réutilisés ailleurs. Donc, c'est un projet qui est fiscalement responsable. Dans ce cas-là, comme ils étaient des pionniers, c'était la première fois qu'ils faisaient ça ici.
Mais est-ce qu'ils ont eu des obstacles techniques importants ou ça s'est relativement bien fait?
Je pense que c'est plus la lenteur liée au fait que tu es en train de défricher.
Ouais,
évidemment que si le 15e ou le 20e ou le 30e projet comme ça au Québec, forcément, il y aurait comme des réflexes de conception puis une expertise qui se développe. Lui, sa chance, le maire, c'est qu'il y a eu une campagne philanthropique autour des entreprises qui ont décidé de faire des dons pour soutenir le projet. Mais à la fin, il est à somme toute gagnant. La grosse question, c'est qu'on peut demander souvent, c'est qu'est-ce que ça donne de faire ça? Sur le plan environnemental, là, notre énergie, notre électricité est propre. Là, bon. J'ai posé la question, puis ce que plusieurs m'ont répondu, notamment l'architecte qui a conçu la bibliothèque, Maxime Gagné, il me dit produire d'énergie, on peut en produire de l'énergie plus propre que d'autres. Mais produire de l'énergie, ça a toujours un impact sur l'environnement. L'énergie fossile en a beaucoup d'impact, mais ici, l'hydroélectricité, une fois que le barrage est fait, l'énergie est propre. Sauf que bâtir le barrage lui-même, ça fait des ravages sur le plan environnemental. Donc, il me dit, la meilleure énergie, c'est celle que tu consommes pas. Si, globalement, au Québec, on arrive à ce que notre parc immobilier, là, qu'on peut l'appeler comme ça, devienne vraiment nettement plus efficace que maintenant, l'énergie qu'on sauve, on peut l'utiliser ailleurs sans bâtir de nouveaux barrages. Notamment la demande pour les voitures électriques, ça va forcément augmenter la demande en termes d'électricité. Mais cette énergie-là, plutôt que de la gaspiller, on peut juste l'utiliser à meilleur escient. L'autre question que j'ai demandé, c'est comment on peut faire pour amener le privé, pour amener ces pratiques-là à se répandre, à se démocratiser. Puis, ben, ça prendrait des incitatifs, bien sûr.
Un peu comme les voitures électriques, là.
Oui, mais dans ce cas-ci, encore là, l'architecte Maxime Gagné m'a dit, ben, selon lui, la clé est dans les mains des donneurs de contrats publics. C'est-à-dire que si les gouvernements dans les bâtiments qui financent s'y optent pour de l'innovation, ça va tracer la voie, ça va inciter le privé à emboîter le pas. Et peut-être ça va aussi revaloriser le rôle des architectes auprès des entrepreneurs privés, parce que souvent, on n'y a pas recours pour bâtir des maisons, notamment. On saute l'étape de la conception avec les architectes. Donc, voilà. Donc, je pense que je dis bravo à la ville de Varennes d'avoir pris le risque politique de cette innovation.
Merci beaucoup, Émile.
Merci, Paul.
Bon week-end. Il est 9h02.